pour cette super communication qui nous introduit déjà, annonce ce qui viendra cet après-midi, avec cette attention sur le style. Moi, je répète toujours que le style, la forme fait partie du sens. Et ça, c'en est un exemple. Le sens n'est pas complet si on ne fait pas attention au moment où les auteurs portent leur effort, le plus évident. Cela a un sens.
Le titre de cette communication, regardez, elle est au début, je l'ai un peu modifié par rapport à ce que j'avais annoncé il y a quelques mois, parce que j'avais annoncé le titre en me souvenant du colloque de Munich, où la première fois que j'ai vu ce texte, il était présenté comme étant de 800. Voilà, donc j'ai un peu corrigé quand j'ai regardé à nouveau les volumes édités par Francesco Stella, ici présent, et donc ce que vous avez dans la bibliographie. Donc le titre de cette communication se présente à vous de façon légèrement corrigée quant à la datation du texte étudié. Cette dernière pose en effet un problème qui n'est pas dirimant pour mon propos, mais que je préfère régler d'emblée. Donc lors du colloque de Munich, où fut pour la première fois proposé ce poème, la date alors retenue par son éditeur, Daniel Vitali, que vous avez dans la bibliographie, était aux environs de 800, ce qui en faisait un monument carolingien. Dans la publication du colloque en 2003, puis dans l'édition du Corpus 2007, l'éditeur conclut à une attribution acceptable à Théophride, abbé de Corbie, en 657, puis évêque d'Amiens, disparu après 683. Par Amiens, l'évêque. Il s'appuie pour cela sur un chapitre consacré par Dag Norberg, dans 1954, chapitre 3, vous l'avez dans la bibliographie, à la production poétique de Théophride, il a fait tout un chapitre là-dessus, pour en conclure que ce poème s'y apparentait suffisamment pour lui en attribuer la composition. C'est ce que dit Vitali. Mais, tout en soulignant bien les caractères communs de cette production, Norberg, au moment d'attribuer des pièces à un auteur, concluait prudemment, et à mon sens avec raison, qu'il pouvait aussi bien s'agir d'élèves ou d'imitateurs de Théophride. D'autre part, le manuscrit principal, par le manuscrit pour une fois, où se trouve le poème, est daté, je cite, pour des raisons paléographiques du IXe siècle. Le manuscrit secondaire aussi, parce qu'il y en a deux. Il est donc plus raisonnable d'attribuer, comme je le fais, finalement, la date du 8e siècle à la composition de cette œuvre, soit donc mérovingien tardif ou carolingien précoce, ce qui a son importance puisque, si c'est carolingien précoce, on est avant la correction des textes par ceux qui ont fait la réécriture carolingienne, quand ils ont été corrigés, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien entendu, la simple lecture de ce texte montre qui ne s'intègre pas à la poésie savante en latin, restaurée dans le siège acunien, et donc vous venez d'avoir un magnifique échantillon, la lecture de Jean Meyer. C'est précisément ce qui en fait son intérêt, et ces précautions prises, je voudrais maintenant expliciter les propositions que contient mon titre. La langue du document est dite latiniforme, parce que, sous la graphie latinisante, émerge le latin parlé tardif mérovingien en phase de transition vers les parlés romains d'oïl. Je dis d'oïl parce que c'est dans la région de Combe. Le rythme est dit romano-germanique parce que cette œuvre surgit précisément dans une région de rencontre et d'acculturation intense entre latin et franc, ce qui a entraîné dans les caractères langagiers de ces espaces la construction de prototypes d'une oralité originale. De ce fait, étudier à la loupe, comme cela est fait la plupart du temps, mais pas toujours, ce type de vers à la seule lumière de ses lointaines origines latines, entraîne certaines lacunes conceptuelles, puisque toute la rencontre romano-germanique s'en trouve élidée. C'est le cas notamment des travaux de Dag Norberg, de pieuse mémoire. Donc, point 2, statut linguistique. Sur cette latinité mérovingienne, mais aussi carolingienne, les points de vue ont beaucoup changé depuis 50 ans à trois points de vue majeurs. Le rapport écriture-parole, là j'ai mis des guillemets barbarie mérovingienne, là j'ai mis des guillemets grammaticalité carolingienne. Je ne peux évidemment entrer ici dans le méandre des préalables qui ont conduit à une remodélisation générale. Le grand intérêt pour ce colloque-ci est de constater avec satisfaction, enfin pour moi, que le monde des illitératies, vous savez, et de l'oralité collective est désormais accessible aux outils de linguistique diachronique et par ricochet est disponible pour les historiens. Dag Norberg, après et avec bien d'autres, déplorait autrefois à toutes les pages de sa publication la barbarie mérovingienne. Enfin, là, je l'ai beaucoup fréquenté pour faire ma thèse, et il faut reconnaître qu'il était dans la qualification, je dirais, de ce côté-là, avec un certain purisme, sinon une certaine moralité, comme si faire des fautes contre les déclinaisons du latin, c'était être immoral, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, donc d'ailleurs c'est un peu ce qui est suggéré à bonne déclinaison, bon évêque, bonne déclinaison. Hein, voilà, donc c'est tout le problème du rapport entre parole et morale, et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est traité d'ailleurs par Bourdieu dans ses 3 études d'ethnologie kabyle. Il y a toute une part. Enfin, je ne vais pas revenir. Non, mais c'est vrai, en 1960, c'était pionnier de ce côté-là aussi. Donc. C'est la barbarie mérovingienne, confondant quand même, et ça c'est. Je parle en temps. Vous savez, je fais de la sociolinguistique, c'est-à-dire je m'occupe d'une part de linguistique en essayant de ne pas mélanger avec la sociolinguistique. C'est-à-dire, ce qu'on a, pourquoi social? Parce qu'on s'occupe constamment des groupes de rapport de force culturelle. Le groupe de rapport de force culturelle, c'est une chose, et l'histoire de la langue, ça en est une autre. En interaction constante, mais qu'il ne faut pas mélanger dans la mesure où on y arrive. Pour toujours simple. Tout ceci pour écrire que le texte que nous lisons présente toute une série de traits qui le placent clairement dans le flux de la parole vivante du temps. De ce côté-là, je fonctionne absolument. C'est pour ça que je voulais parler avant Jean, parce qu'on est exactement en antithèse, mais chronologique. Ça fait rien. Pour s'en convaincre, il faut faire abstraction de la graphie, elle bien latinisante, pour regarder la morphologie, la syntaxe, le vocabulaire, le phrasé. Alors évidemment, je ne vais pas détailler l'analyse, mais regardez la strophe 4. Le poète commentateur passe brusquement à la première personne du singulier, évidemment, à la première personne, elle est forcément du singulier dans ce cas, pour engager une déploration personnelle. À l'exemple, d'ailleurs, ça m'a rappelé des synonymes d'Isidore de Séville. Je me sens que Vitali n'a pas fait le rapprochement, mais ça pourrait s'imposer, les lamentations de l'âme pécheresse. Il y a quelque chose du même rythme. Bon. Tout en plus, Isidore est élu à Corbie, il y avait des copies de lui à Corbie. Mais ce n'est pas le sujet de ma communication. Vous voyez, il y a une proposition principale, des ou non, je prononce, comme si c'est, je vous le prononce comme si c'était autant de Cicéron, des ou non ligno mortem sub mutavi, mais ça ne prononçait pas du tout comme ça hein, au 8e siècle. Vous voyez, il y a donc un syntagme nominal au début, avec une préposition suivie d'un ablatif, puis un deuxième syntagme nominal, mortem, qui est le complément d'objet direct, puis le verbe. Voilà. Et entre les deux, il y a une proposition subordonnée, unde gustavi, qui démarre par un équivalent de pronom relatif, qui est l'équivalent du latin classique echo. Hein? Et c'est ça qui t'intéresse, suivi du syntagme verbal. Donc, c'est là-dessus que se trouve le saut. Un peu audacieux que je fais, ceux qui ont l'habitude de lire du très ancien français reconnaîtront sans peine un ordre des mots et un emboîtage, en somme ce que j'appelle un phrasé, tout à fait possible au XIe siècle, on le trouve partout, n'est-ce pas, et donc a fortiori au 8e. Les prétérites en aoui donnent directement les passés simples du proto-français et de l'ancien français classique, jusqu'au français moderne, ça se prononce encore autrement, et enfin, l'ancien français classique use avec un spectre bien plus large qu'aujourd'hui du connecteur syntaxique don, directement issu du latin parlé classique unde, couramment attesté en latin par les tardifs, notamment dans les sermons d'Augustin, puis renforcé par de unde, don. Quant au lexique, à part sub mutavi, mais rien n'empêche de le supposer vivant alors, il est attesté partout en roman d'oeil et donc. Je ne peux que signaler d'autres jolis phrasèmes romans comme Tulerunt mihi una costa. Miserunt in euam. Alors évidemment, si on prononce Tulerunt mais une coste, vous voyez, on change brusquement de langue. C'est du très vieux français. Certes, ou du français tout neuf, ça dépend de quel côté on le regarde. Oui, on dit toujours avec le français, le 8e siècle, il est tout neuf. Certes, le texte biblique n'est pas loin derrière, mais voyez comme cet énoncé se transpose aisément en ancien français classique, c'est l'écho de l'oralité contemporaine qui se fait ici entendre. Naturellement, ceci suppose que nous fassions taire en nous nos habitudes d'universitaires formés à la prononciation du latin classique. Donc, suivant de nombreux travaux pionniers en ce domaine, je répète qu'en cette période, le rapport graphiphonie est devenu très lâche et que la voix intérieure du copiste ou du lecteur contemporain faisait retentir quelque chose comme « donc tolerant me une coste, la mistre un eva » ou « un eva ». Vous voyez, si je prends une prononciation d'Oyle, et vous avez le même texte, mais ce n'est plus la même langue. Enfin, ceci dit accessoirement, le français vient du latin, et quand il est tout neuf, sortant du latin tardif, forcément, il y a des moments où il se ressemble beaucoup. Hein. Cette voix transformée, et évidemment loin de ses origines phonétiques latines, pour le coup, sera consacrée plus tard par la réduction de l'écart graphiphonie, événement souvent improprement salué par les philologues, comme la naissance de l'écriture dite vernaculaire. Je précise que cette réalisation orale naturelle n'excluait pas, même au 7e ou 8e siècle, une diction soignée, conforme à la solennité de cette méditation. Ça fait partie de mes discussions avec le cher Roger Watt. Bien sûr, il n'échappe pas à l'œil des latinistes que quelques morphèmes archaïques se glissent dans le texte. Exemple, utinam fratribus et meis, res inter fratribus meis, je crois qu'il y a, je crois que j'ai oublié l'inter. Il y a inter. Bon, je ne l'ai pas tapé. Bon. Ça, c'est large. Pas l'oubli, mais les yeux. Mais, comme cela a été exposé ailleurs, l'analyse linguistique du latin tant mérovingien que carolingien gagne en adéquation en abandonnant les modèles dualistes traditionnels bon-mauvais, latin-vulgaire, au profit d'un échelonnage entre au moins 4 ou 5 niveaux de langue, du proto-romain au latin ancien au 8e siècle. Les quelques signes archaïsants ne suffisent pas à classer ce monument comme latin, mais à le placer au niveau 2-3, autrement dit ici, quelque part du côté du proto-français, paré de quelques bijoux grammaticaux. Archaïque. Il faudrait discuter du détail, je le ferai plus tard, s'il y a une publication ou ailleurs. Notons seulement que le très élégant et inapproprié fratribus n'est probablement, comme dans beaucoup d'autres documents de l'époque, évidemment d'abord les chartes mérovingiennes ou carolingiennes avant la réforme, qu'un pur graphème culturel, masque d'une prononciation réelle, frères. Tout ceci pour conclure que ce joli texte pousse les qualités du sermo humilis augustinien, puis du sermo rusticus césarien, César d'Arles, au point de rencontre asymptotique avec le proto-français. Troisième point, statut poétique. Donc je vous prie d'excuser le côté technique, mais après tout, là j'étais dédouané par Michel, qui a été encore plus technique que moi, donc... Le côté technique de cet exposé, caractère qui va malheureusement s'aggraver encore un peu. La matrice poétique de ce texte résiste consciencieusement à toute filiation sérieuse directe vers l'amont de la métrique quantitative. En interaction diachronique, il s'est littéralement évadé, comme le feront bientôt les premières tropes et séquences, dont la liberté susciteront des débats animés entre le moderne Amalère et le conservateur Agobard. C'est 50 ans après, même pas. En fait, ça dépend de la date attribuée, mais en fait, c'est au 9e siècle qu'apparaissent les premiers débats autour des tropes des séquences, avec ceux qui étaient pour, hein, les innovateurs de Metz, et ceux qui étaient contre Agobard de Lyon. Agobard était, vous savez, venu d'Espagne, c'était un visigoth, combatif, réactionnaire, qui avait un sale caractère, tout en étant intelligent, et donc il y a des textes tout à fait éclairants, justement, autour de l'émergence de nouveaux genres littéraires. C'est 840-850. Donc, pour établir le statut poétique de ces vers, il convient de poser un certain nombre de paramètres en tenant mieux compte, d'abord, des phénomènes d'interaction langagière synchronique, autrement dit, des effets d'échange, d'imprégnation, d'emprunt, de coloration, entre le latin parlé tardif et les dialectes germaniques, au premier chef desquels le francique. Cela a fait l'objet de travaux parfois importants, surtout évidemment du côté des philologues et historiens allemands. Alors je vous ai mis tout ça en bibliographie, il y a les travaux de Aubrich, de Martina Pitz et tout ça, etc. etc. Et je n'ai plus que constater et un peu regretter combien l'histoire de la langue française est marquée par l'héritage d'un nationalisme omniprésent. Tout ceci pour souligner le fait que le latin parlé en Gaule du Nord a encore renforcé à l'époque mérovingienne un accent lexical, accent de mots déjà devenu chronique sous l'Empire, donc en latin parlé tardif. Je vais éviter de vous accabler avec un cours de phonétique historique qui faisait fuir les étudiants, sauf ceux qui étaient vraiment accros, n'est-ce pas, pour me borner à rappeler que ce processus de passage d'un accent doux et musical à un accent tonique et fort, réaccentué encore, à mon avis, au 6e, 7e siècle, donc ce processus a, entre autres effets, profondément modifié l'évolution du système vocalique, c'est ce qu'on appelle la seconde vague de diphtongaison, et en particulier une fameuse diphtongaison dite française. Ce qui est là aussi. Bon. Cela signifie que les vers que nous avons sous les yeux possèdent des sommets accentuels très forts. Précisément, c'est le point principal de rencontre entre le rythme du latin tardif et le rythme du germanique précoce. Les premiers monuments poétiques conservés en vieil haut allemand, vous avez fait tout ça en bibliographie, remontent à la moitié, c'est l'Evangelienbuch, et à la fin, c'est le Ludwigslied, du 9e siècle. Tous deux sont nés sur l'espace austrasien, lieu d'interaction majeure entre les mondes romains et germaniques, phénomène accentué depuis la fin du 7e siècle, avec l'émergence effectivement des Pyrénées. Bon, je ne vais pas faire encore l'histoire. Même si ces documents sont postérieurs sans doute d'un siècle à notre poème, il n'y a aucune raison de douter que la poésie germanique n'ait pas existé longtemps avant son accès à l'écriture, ni de supposer que sa métrique ait été fort différente au 8e siècle. Je suis les travaux des linguistes et des philologues germanistes. Mais donc son histoire et ses structures ont été reconstruites de manière suffisamment sûre pour être exploitées dans une approche comparatiste. Certes, il y a quelque part inévitable de conjectures, mais elle ne devrait pas fragiliser l'essentiel qui est assez simple en fait. Dès l'origine, le rythme du vers germanique a reposé sur une opposition temps fort, temps faible. Bien entendu, le temps fort est constitué par toute syllabe tonique, toute syllabe accentuée. Le temps faible par toute syllabe atone. Chaque unité de mesure est bâtie à partir d'un temps fort unique auquel est associé un ensemble, et c'est ça qui est important, un ensemble de un ou plusieurs temps faibles. Ensemble qui peut être antéposé, on a le rythme à ce moment-là iambique, ou postposé, on a à ce moment-là le rythme trochaïque. Le parallèle avec les principes de la poésie rythmique latine est évident, enfin je l'espère. Sur cette unité de mesure est bâti le premier vers du vieil haut allemand, qui en simplifiant beaucoup, se caractérise d'abord par les traits suivants. Là, j'ai résumé en particulier le livre de Fourquet que j'ai cité en bibliographie, qui est paru en 1935, qui a été édité en 1989 sur les principes de métrique germanique. Vous avez tout ça en bibliographie. Donc, le premier vers, celui du 6e, 7e, 8e siècle. Et il est long, il est polysyllabique. Deuxième trait, il comporte une première séquence plus longue que la seconde. Autrement dit, plus de syllabes toniques en A qu'en B. Ensuite, il est souvent allitéré entre les parties A et B. Chaque unité très suivant compte, chaque unité de décompte peut compter plusieurs temps faibles, de 1 à 3 ou 4 syllabes atones pour une tonique. Dernier trait que j'ai dans l'énumération que j'ai faite en simplifiant, le tout début de l'hémistiche A, ou moins souvent de B, peut être souvent hors de compte. C'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, une anacluse. Bon. Moi aussi, j'ai fait mon petit moment technique. Je ne peux pas vous parler d'hexamètre, de brève et d'allongement. Là, dans ce texte, ça serait inapproprié. Ou de césure triéninaire ou efténinaire. Ça fait plus chic, mais bon. Donc, l'interprétation métrique qui est proposée de Arbornatus, que vous avez donc en fait sous les yeux, puisque repose sur l'idée d'une convergence. Je ne dis pas d'une identité, parce qu'on s'est occupé de rythme, et je me disais d'ailleurs, en me lisant moi-même un peu écoutant, qu'entre le rythme des parlers germaniques et le rythme des parlers latins et le rythme de vie, etc., un jour, on pourra peut-être faire un colloque autour de ça. C'est vrai que c'est tout à fait une rencontre. Et un système d'acculturation réciproque. Voilà, donc l'interprétation métrique, il n'y a pas d'identité de la matrice rythmique de ce poème avec celle qui était établie pour le premier vers vieil au allemand. Voilà. Cette lecture repose d'abord sur la constatation globale qu'il existe alors sur cette R une interférence culturelle et langagière entre latinophone et germanophone, ensuite sur la déduction hautement vraisemblable que le rapport, c'est là le point, syllabe forte, syllabe faible, est équivalent en latin parlé mérovingien, puis évidemment en proto-français, et en ancien français classique aussi, et en vieil haut allemand. L'opposition syllabe forte, syllabe faible est à peu près, sans doute, de même proportion. La somme de ces données conduit à tracer alors l'image rythmique que vous avez dans le document distribué. Donc, en voici quelques commentaires d'abord techniques. Alors, les accents aigus, bien entendu, syllabes, les signaux toniques. J'appelle les accents aigus, c'est les syllabes toniques. Pourquoi toniques? Elles sont toniques étymologiquement. Elles étaient accentuées déjà en latin classique, mais avec l'accent doux. Hein, elles n'ont pas changé de place. Là, de ce côté-là, je suis dans la lecture linguistique, pas dans la lecture musicale. Après, quelqu'un chante derrière, peut chanter comme il veut. Il est important de souligner que dans une perspective réaliste, donc ce sont les accents lexicaux, hein, étymologiques, qui sont dénombrés tant en latin tardif ou en ancien français, qu'en ou allemand, ou en moyen allemand. Les barres obliques que vous avez sous les yeux, les barres obliques simples, signalent les unités de mesure métrique, autrement dit les pieds. Les barres obliques doubles signalent la césure. Elles correspondent à la disposition graphique du texte. Dans l'édition, il a bien séparé, et je pense que c'était comme ça dans le manuscrit, mais je n'ai pas vu le manuscrit. Enfin, j'ai fait confiance à l'éditeur et au patron de l'édition. Oui, les chiffres indicés de P, alors, sont une présentation empruntée au système de Dag-Norberg. J'ai gardé des morceaux du système Dag-Norberg avec le décompte des syllabes, vous avez le nombre de syllabes, et la nature accentuelle de la dernière, P signifiant paroxyton, évidemment, il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas de double P, puisqu'il n'y a pas de paroxyton. Alors, contrairement, en revanche, aux savants suédois, je ne compte pas de contre-accent. Ça, je laisse de côté la discussion technique pour rappeler seulement que ni le latin classique ou tardif, ni l'anglo-normand n'en possède. Ce n'est pas la même chose l'accent étymologique et l'accent de l'intonation. Évidemment, quand je vous parle, je vais pouvoir insister sur mes syllabes selon ma fantaisie. C'est autre chose, ça. Ce n'est plus la même, c'est l'intonation, ce n'est plus l'accentuation. Ce n'est pas la prosodie phonologique de la langue. Voilà. La prosodie phonologique de la phonologie de la langue, en italien, en espagnol, vous avez un accent. Maintenant, dans l'intonation, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez même le déplacer. Normalement, je dois dire, vous avez compris, avec accent sur le i. Mais si je veux insister, je veux dire, vous avez compris. Hein? Est-ce qu'il faut y revenir? Ou est-ce que je vais vous dire, est-ce qu'il faut y revenir? Vous voyez? À ce moment-là, ce n'est plus accent étymologique. C'est le jeu, je dirais, de l'idiolecte particulier dans un contexte. Ce n'est plus la même chose. Bon. Même si je joue toujours la même personne qui s'exprime. Ensuite, quelques commentaires poétiques. Le décompte exact des syllabes peut varier un peu selon l'interaction phonétique des graphèmes. On peut hésiter sur le nombre de syllabes selon la reconstitution de la prononciation haute voix. Mais les rapports établis entre A et B, partie gauche et partie droite, sont stables. Les distiques ou les tristiques, entre guillemets, là j'exagère, ça est distique, mais les deux vers longs que vous avez au début, sont formés effectivement de vers longs de 14 à 16 syllabes. Le premier hémistiche compte 1 et 5 syllabes, entre 1 et 5 syllabes de plus que le second, et au moins un temps fort de plus. L'attaque de tous ces vers se fait sur une syllabe tonique. Il s'agit donc, là, je vais rejoindre un petit peu le commentaire d'impression si difficile, mais il me semble que dans ce cas-là, il s'agit d'un rythme dégressif trochaïque, un rythme ralentissant. Enfin, effectivement, certains temps faibles sont occupés par plus d'une syllabe, c'est là ce qui peut surprendre, donc je ne compte pas un temps sur une syllabe, il peut y avoir deux ou trois syllabes à tonne qui tombent, comptent pour un temps faible, et ça fait quand même une unité métrique. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ça n'est pas du tout sur un garde de vers germanique. Enfin, bizarre, est-ce que ça vous paraît bizarre? C'est pas sûr. Dans un strophe 6, regardez, le vers 1 est formé d'unités binaires. Vous avez donc des trochets qui se succèdent rapidement, et là, il n'y a pas de syllabe blanche, si j'ose dire. Enfin, je ne vais pas employer le vocabulaire musical, de syllabes qui ne comptent pas. Plus exactement, plusieurs syllabes vont faire un temps faible. Le temps faible est représenté par une seule syllabe, ce qui veut dire que les temps forts se succèdent assez rapidement. Et là, on est dans un rythme, puisque c'est la voix qui donne le rythme. Ce n'est pas du tout l'ictus du latin classique. Pour que le rapprochement soit tout à fait convaincant, il conviendrait sans doute de regarder le schéma métrique de quelques vers, par exemple du Ludwigslied que j'ai dans mes papiers. Je l'ai fait scander par Wolfgang Aubry soi-même, qui m'a dit que tout ça était très compliqué, mais qu'on a piloté, mais enfin, je vais vous épargner ça dans ce cadre d'une conférence, ça relève de séminaire. Bon, donc, la comparaison, en effet, est tout à fait éclairante, mais sans doute avons-nous fait suffisamment de techniques ici, on a parfois l'impression que ce texte oscille, par moments, entre un rythme poétique soutenu et celui d'une cantillatio plus proche de la prose. Ça m'avait valu un débat avec le grand patron de MGS, Silagi, qui était tout à fait mécontent que je conteste la mise en musique de textes rythmiques. Je ne sais pas si tu te souviens, Francesco, parce que il y avait des passages de l'Évangile où il y avait un accent tonique toutes les cinq ou six syllabes, et j'avais nié qu'il se soit agi là de poésie rythmique, ce qui avait mis le bien-aimé directeur très en colère et qui avait dit « ce jeune homme a un problème ». J'avais 50 ans, mais j'étais quand même... Ça m'avait quand même soufflé, parce que une discussion scientifique, on peut se tromper, je veux dire, à partir de quand n'a-t-on plus de rythme dans un texte? Voilà, c'est-à-dire... Là, il était manifeste, j'avais mis les accents étymologiques, et il y avait un accent étymologique qui venait toutes les cinq ou six syllabes. Alors, s'il y avait un rythme, il était vraiment très lent. Voilà. Mais là, je me suis heurté, vous savez, à la panzerphilologie, ça a été très, très long. Voilà. Donc, pardon. Donc, ça. Non, c'est pas grave, c'est de bons souvenirs. Pour moi, pour s'y réfléchir. Donc, je termine avec le statut sociolinguistique. Il est évidemment inutile de chercher quel modèle de parole et de poésie a influencé l'autre, le latin ou le germanique. C'est le développement d'une civilisation en symbiose. Vous avez un gros volume qui a été dirigé, il est dans la bibliographie, par Hagermann, Jarmuth et tous les instituts historiques allemands de Paris qui a fait un gros colloque et plusieurs là-dessus et qui sont tout à fait instructifs pour le... je dirais pour les gens de langue romane. Et c'est donc des gens de la Neustrie, si vous préférez. C'est le développement, et moi personnellement je suis plutôt de l'Aquitaine, enfin. C'est donc le développement d'une civilisation en symbiose entre les mondes francs et romains qui rend le mieux compte de cette émergence, d'autant plus que les convergences langagières entre latinophones et germanophones, cet espace nord-est de l'ancienne Gaule romaine, ont elles-mêmes été fortes. À ce propos, avant d'attribuer un statut sociolinguistique à ce monument, je voudrais souligner qu'il ne faut pas le soumettre à une interprétation de type musical. Certes, un manuscrit de la fin du Xe siècle en contient une notation pneumatique, qui est d'ailleurs éditée par Sam Barrett à la suite du texte de Vitali, et d'après les spécialistes, cette notation serait celle de l'école de Senga. Je n'irai pas plus loin parce que là, je suis vraiment de troisième main, si j'ose dire. Donc je ne voudrais pas faire de fausses notes. Mais si grand en soi l'intérêt, il faut se garder de plusieurs tentations, rétro-projeter sur le 8e siècle cette mise en musique, soumettre le texte à la matrice musicale, le chant et la musique en général modifient librement la phonologie naturelle. De ce fait, tirer ces lignes trop à l'intérieur des murs monastiques et du monde clérical, c'est ce que fait manifestement le texte que tu as commenté. Là, on est en train de récupérer... Enfin, on en parle après. En effet, Puisque le sujet de cette journée est l'étude des rythmes et des croyances, l'intérêt de l'approche proposée est d'attribuer à ces modestes mais sympathiques lignes un statut sociolinguistique important, justement dans le développement des croyances. C'est ma dernière page. Ce joli texte, que je l'aime bien, est bâti de manière à être doublement en rapport direct avec un vaste public. D'abord, la langue est à la fois claire et moderne, pour le 8e siècle. Le public des illiterati peut la comprendre et, au besoin, s'y identifier. Ensuite, sa charpente poétique se rythme sur la parole vivante de l'époque, sous son double ascendant roman et germanique, culture monastique et cléricale, certes, mais combien d'interférences avec la culture et la religion des laïcs, du moins christianisés, évidemment. Là, je suis le vieux livre de ce Volker Scher, Und Heiliger im Reich der Merovinger, qui est une longue lecture, et d'autre part, le dernier livre de Bruno Dumézil sur la conversion au christianisme de l'Europe. On a tous les éléments là-dedans. Ce type de langue et de rythme, alors, n'aura besoin que de peu de changements pour émerger sous une forme franchement romane, lorsque sous la pression des élites laïques austrasiennes, le pas de la réduction de l'écart graphiphonie, autrement dit, je rappelle que l'orthographe traditionnelle manifeste le privilège symbolique de la domination des clercs, est accompli, nous découvrons la célébrissime cantilène de Sainte-Eulalie, datée de la fin du 9e siècle. Et pour votre serviteur, elle n'est pas du tout un début absolu, mais l'aboutissement attendu de l'accès à la parole moderne au rang d'acrolecte littéraire. Voilà.